Pile, bienvenue sur les ondes de Chiz 94.3 pour cette troisième édition déjà et dernière édition de la session d'automne de la table ronde littéraire de Chiz en collaboration bien évidemment avec Co-op Zone. Très très heureux de vous recevoir encore une fois pour cette table ronde. Ce sera Félix-Antoine Audet, moi-même à l'animation modération, mais les réelles vedettes, les vrais clous du spectacle sont à mes côtés, ces experts littéraires qui vous charmeront pour la prochaine heure. Introduisons-les, c'est un retour à la table ronde littéraire pour Michel Germain, gérant de la section librairie de Co-op Zone. Salut Michel!
Allô, ça va bien?
Ça va très bien, je me suis ennuyé de toi, Michel.
Ben oui, ça faisait longtemps, ça fait deux mois.
J'ai pleuré quelques larmes, ah, honnêtement, là, de joie, d'émotion de te retrouver aujourd'hui. Un plaisir.
Très gentil, puis le plaisir est partagé.
Ah, oh, j'aime ça, mon, j'aime ça. Et une première aussi chez nos intervenants, comme à l'habitude, d'Impact Campus. Il est journaliste multimédia pour Impact Campus et aussi étudiant au baccalauréat en littérature, William Pépin.
Bonjour, merci d'avoir invité.
Oui, et là, content d'être là, il faut signaler... Une première mondiale, quand même. Il faut en profiter. Première mondiale en ondes pour notre William.
Les amis, c'est un grand moment. C'est la première fois de ma vie que je parle devant un micro.
Oh, wow! Hey, on est honorés de ce beau moment, mais surtout, surtout, je garde le meilleur pour la fin, sans aucune gêne de vous le dire. Une invitée toute spéciale pour cette troisième édition qui va bien terminer la session. Mireille Gagné, autrice, qui a été acclamée par la critique de plusieurs recueils de poésie, de nouvelles et aussi du roman Lièvre d'Amérique, qui a été lauréat d'une ville, un livre 2021, du prix de création littéraire 2021, du Salon international du livre de Québec et de la ville de Québec, et une liste de prix qui n'arrête pas, un roman qui a connu tout un succès, et elle est à la veille de son lancement officiel, excusez-moi, ce soir, de Bois de fer, son tout nouveau recueil de poésie. Mireille Gagné, bonjour.
Bonjour. Très présentation.
Alors, c'était mérité quand même. Très, très heureux de vous recevoir parmi nous. Bon, comment on se sent à la veille tout juste de ce lancement qui se passe à Montréal pour Bois de fer?
Bien, Bois de fer est sorti il y a quelques semaines déjà, mais c'est vraiment le
lancement officiel. Oui, c'est ça, le lancement officiel quand même, c'est une étape importante.
On se sent très heureux, en fait, parce que les lancements, c'est souvent les rencontres avec le public, avec les gens, avec les gens qui ont apprécié le livre. C'est aussi le moment de partage, de donner certaines dédicaces très personnelles à mes amis proches et aux personnes qui vont venir. Donc, c'est toujours un moment très, très chaleureux.
Et, livre, bon, il est sorti depuis quelques mois, comme vous l'avez dit. Et la réaction, comment êtes-vous satisfaite de l'accueil de ce nouveau recueil de votre part?
Je suis franchement très, très étonnée, très heureuse des retombées de Bois de fer. C'est un récit poétique, poésie, donc je pense que je m'attendais peut-être pas nécessairement à ce que autant de personnes le lisent. Donc, j'ai eu des beaux retours. Les gens l'ont apprécié. Donc, ils m'ont écrit personnellement. Donc, ça fait vraiment plaisir que la poésie... C'est une poésie très narrative là, dans ce dernier livre-là. Donc, d'accrocher plusieurs personnes qui, normalement, ne lisaient pas de la poésie, là, ça m'a fait bien plaisir.
Ça fait plus de 10 ans. Là. Je ne veux pas m'avancer sur un chiffre. J'y vais avec les connaissances que j'ai de votre biographie. Ça fait plus de 10 ans que vous écrivez, que vous êtes publié. Quand est-ce que ça vous est venu, cette piqûre-là, cette volonté-là d'écrire et qui vous a amené à votre métier actuel?
Pour être franc, je pense que tout a commencé vraiment par la lecture. Dès mon très jeune âge, là, j'étais quelqu'un de très loquace dans les classes. Donc, les professeurs souvent me disaient « Tu peux lire, Mireille, quand tu as fini ton travail. » Puis c'est même devenu comme une seconde nature chez moi parce que même quand j'écoutais un cours, je continuais à lire. Donc, je pense que c'est... Puis tout le monde a accepté ça à travers les années, même jusqu'à l'université. Je trouve ça très drôle quand j'y repense maintenant. Mais je pense que c'est vraiment par la lecture que j'ai commencé à me plonger dans la littérature. L'écriture est venue comme naturellement, peut-être fin du secondaire que j'ai commencé à écrire de la poésie, de la nouvelle au cégep. Je m'occupais du journal étudiant au cégep de Lévis-Lauzon qui s'appelait le Forceps à l'époque. Puis j'ai commencé à écrire des textes-là. Puis tu sais, j'ai participé à des concours. Puis à un moment donné, je pense que c'est venu naturellement. J'avais un recueil qui était terminé. Je m'étais inscrite en création littéraire à l'Université Laval également. Mm-hmm. Donc, j'essayais de trouver plus de moments pour écrire parce que j'ai une autre carrière à côté. Moi, je travaille en communication à temps plein. Là, je ne suis pas écrivaine à temps plein. Au Québec, ce n'est pas si simple financièrement d'y arriver. Donc, fait que je pense que c'est comme ça que c'est arrivé. Puis, c'est vraiment une urgence pour moi. L'écriture, quand ça arrive, j'arrête tout puis je me mets à écrire. Puis, c'est comme une partie de mes journées est consacrée quand même, malgré mon travail, là, à l'écriture ou à réfléchir sur l'écriture puis à lire.
Mais justement, là, comment on fait collaborer ça, un emploi à temps plein et une carrière d'autrice? Il y a les moments qui sont prédestinés, mais quand l'inspiration frappe, puis il faut agir là, mais vous êtes en plein milieu d'une réunion quelconque, comment on réussit à faire collaborer ces deux milieux-là qui peuvent être quand même très différents?
Oui. Bien, moi, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que mon horaire est chargé, parce que j'ai des enfants aussi, j'ai un travail à temps plein. Donc, j'ai toujours eu des moments qui étaient réservés à l'écriture. Le matin, très tôt, quand je commence un processus de création ou de recherche, c'est vraiment avant que les enfants se réveillent, mettons, je fais un rêve, les rêves occupent une grande partie de mon inspiration. Là. Donc, j'ai toujours un carnet, j'écris. Puis quand ça commence, c'est comme si je trouvais un fil, puis je me mets à tirer sur le fil, puis là, je peux plus arrêter. Fait que c'est comme si je tirais sur le fil dans les moments que je peux. Après ça, j'arrête de tirer sur le fil, je fais mon travail. Aussitôt que je peux, je me remets à l'écriture. Donc, l'écriture, le premier jet, m'arrive assez rapidement, intensément. Puis ensuite, je laisse mariner. Là. Je laisse attendre longtemps, puis je laisse dormir le texte, je le fais lire, je fais d'autres lectures. Dans le fond, je rajoute de l'information, des recherches, de la poésie, du vocabulaire. Fait que je tourne autour de ça. Donc, le retravail est très long pour moi. Ce n'est pas nécessairement le premier jet qui prend plus de temps.
Là. OK.
Oui, mais moi, j'ai une question, Mme Gagné, puisqu'on est dans le processus d'écriture et tout ça. Vous avez écrit de la poésie, un roman fragmenté, de la poésie en prose, par exemple. Je me demandais, qu'est-ce qui justifie la forme plutôt qu'une autre lorsque vous vient le temps d'écrire un projet, par exemple, comme Bois de fer? Qu'est-ce qui justifie la fragmentation dans le cas présent, par exemple?
Je pense que c'est avec le travail du texte que la forme va apparaître vraiment dans le texte. Souvent, je me réveille avec une phrase dans la tête, j'ai rêvé à quelque chose ou vraiment je suis frappée par une idée. C'est vraiment la première phrase qui va un peu éclairer quelle forme va prendre mon texte. Par exemple, si c'est de la poésie, je me dis « Ah tiens, je m'en vais dans quelque chose de poétique. » Dans le cas du Lièvre d'Amérique, j'ai commencé à écrire une nouvelle, tout simplement. Puis à un moment donné, je me dis « Ah, je vais rajouter un autre personnage, je vais rajouter un autre moment dans le temps. » Puis le livre, c'est construit comme ça, même à mon insu. Puis à un moment donné, je me suis dit « Ah tiens, j'ai comme un roman, peut-être. » Fait que j'ai continué à travailler dans ce sens-là. Pour Bois de fer, c'était vraiment un texte très suivi au départ. Il y a eu vraiment beaucoup de formes. Là. Donc, c'était vraiment un récit poétique. Ensuite, je l'ai mis en poème, vraiment en strophe. Ensuite, je l'ai remis en paragraphe. J'ai enlevé la ponctuation. J'ai rajouté la ponctuation. C'était des grandes pages. Après ça, j'ai coupé, j'ai aéré. J'ai numéroté. Donc, dans la mise en page, on a enlevé la pagination parce qu'il y avait déjà une numérotation comme un journal. Donc, j'ai vraiment joué avec le texte. Puis on dirait qu'il y a un certain moment dans l'écriture de mes livres où je vois très bien où se trouve la forme. Parce que je suis une fille qui est quand même très rationnelle. J'ai besoin d'avoir quelque chose dans les mains de concret. Puis de voir où ça s'en va. Mais je suis capable de vivre avec le chaos du début d'un texte. Puis le chaos peut durer 6 mois, 1 an. Puis à un moment donné, c'est comme si le focus se faisait sur le texte. Puis je me dis, ah, c'est exactement ça. Il me manquait comme juste un petit truc qui faisait que tout se tenait. Puis c'est drôle parce que j'écris des affaires, puis sans m'en rendre compte vraiment. Puis à un moment donné, tout a un sens particulier, comme si tous les fils étaient là, puis je les ai juste tressés, je les ai agencés pour que ça forme un tapis, là, un tout. Là, je parle de tricot, je ne sais pas pourquoi ce matin là, je suis là-dessus. Mais voilà, fait que, on dirait que tous les fils s'attachent, puis je me dis, OK, je pense que j'ai compris où je vais aller avec le texte, puis c'est là que je l'affine après dans le retravail.
À vous écouter, puis je suis peut-être complètement dans le champ, corrigez-moi, là, mais votre méthode d'écriture ne semble pas être frappé trop par le syndrome de la page blanche, là. Si les premiers jets viennent rapidement puis vous précisez par la suite, est-ce que c'est quelque chose avec quoi vous devez quand même vous battre de temps à autre ou pas du tout?
Pour être franche, j'écris quand j'ai quelque chose à dire. Si j'ai rien à dire, j'écris pas, puis je vis très bien avec ça. Ma vie est remplie. Je fais de la broderie, du tricot, la couture. Je fais plein de choses autres. Je jardine. J'ai des grands jardins chez nous. Donc, tu sais, je m'organise toujours pour trouver... pour combler le vide à quelque part d'autre avec une autre passion. Mais quand l'écriture arrive, c'est que j'ai vraiment quelque chose à dire, puis ça s'impose. Donc, j'ai pas le choix de le faire. Puis j'ai essayé des fois de me dire, OK, c'est pas le bon moment. Tu sais, avec les enfants, des fois, ils sont malades. Mais quand j'ai une idée, je focus vraiment là-dessus. Puis on dirait que toute ma journée a besoin de s'aligner pour que je puisse écrire ce qui doit sortir. Donc,
on n'est comme pas bien tant qu'on n'a pas tiré sa ficelle. Là.
Oui, elle est vraiment tannante. Elle me regarde, je suis là. Mais c'est ça, faut vraiment que je sorte l'idée, peu importe comment. Puis, tu sais, des textes, ça peut s'écrire sur beaucoup de temps. J'avais commencé un roman avant d'écrire Bois de fer. Puis Bois de fer, à un moment donné, c'est comme imposé. J'ai dû changer vraiment de texte. Puis c'est correct comme ça. Puis là, je reprends le texte, puis je le laisse attendre aussi le prochain livre. Donc, tu sais, il y a des moments où on a besoin de vivre aussi des trucs dans la vie pour justement être capable d'avoir un sujet puis de dire ce qu'on veut vraiment dire. Donc, tu sais, je pense que le temps peut être très long dans l'écriture d'un roman, même si les gens ne le voient pas, parce que le public voit le livre qui est sorti. Mais une fois, le livre il est sorti, ça fait longtemps moi, que je ne travaille plus dessus quand il est sorti et qu'il est imprimé. Des fois, ça fait un an et demi que le texte est terminé.
Il est sorti de la tête.
Moi, je suis rendu ailleurs. Ouais. J'ai avancé sur d'autres trucs. Là,
ouais, donc, je vois bien.
Si je reviens, Mireille, à la sortie de ton livre précédent, dans le fond, Le Lièvre d'Amérique, ça doit faire plaisir quand même de voir comment ta vision s'est propagée. Dans le fond, tu as eu un succès, on l'a dit, mais c'est vraiment international. Tu as eu un succès fulgurant en France avec l'achat par le livre de poche qui a donné une deuxième vie, même au Québec, à ton texte. On parle de droits vendus en Allemagne. Je t'ai invité un peu partout dans le monde aussi pour en parler. Donc, ça doit être extrêmement valorisant de constater que ce qu'on pensait être la meilleure version du texte rejoint autant de monde. J'ai lu Le Lièvre d'Amérique deux fois. J'ai été abasourdi par la qualité de ce texte-là. En lisant Bois de fer, j'ai été estomaqué de voir que tu faisais un peu un pied de nez aussi de par la nouvelle forme que tu donnais à ton texte. Ce n'est plus un roman, mais là, tu es plus du côté de la poésie. J'adore cette audace-là. C'est ce qui fait que j'ai beaucoup insisté pour que tu viennes aujourd'hui parce que je trouve ça admirable. En fait, j'aimerais ça revenir sur Le Lièvre d'Amérique un peu avec toi parce que je pense que ça va être extrêmement important pour le reste de la discussion parce que Bois de fer, on verra un peu les liens qu'on peut faire entre les deux textes. Ceci dit, tu parlais beaucoup de... On te connaît, dans le fond, comme une grande lectrice. Hein, tu consommes énormément de littérature. Est-ce que Le Lièvre d'Amérique, on parle de... Ici, là, je te laisserai en parler plus dans le détail, mais... Est-ce que ça contient pas aussi un peu un hommage à la littérature de par le sujet, la métamorphose? On a fait beaucoup de liens. Tout le monde fait un peu un lien facile avec Kafka, mais ensuite, il y en a d'autres qui s'imposent. On parle de le Lièvre de Vatanen, on parle de truisme aussi, de Darius Seck. Est-ce que c'était voulu? Est-ce qu'il y a un hommage à la littérature ou est-ce que c'est juste... est-ce que c'est juste les intellectuels qui se mettent à essayer de tisser un réseau de sens qui n'existait pas au départ?
Je pense que tu as mis le doigt sur la passion de la lecture. Donc, avec le temps, j'ai quand même aussi eu mon introspection sur le lièvre, pourquoi j'avais écrit sur le lièvre. Donc, tu sais, moi, depuis très jeune, le premier livre que ma mère m'a donné quand j'avais 7 ans, c'était Jonathan Livingstone, Le Goéland, de Bach. Donc, ensuite, à mon adolescence, j'ai adoré Carlos Castaneda. Ben, Jonathan Livingstone, Le Goéland, c'est un goéland qui parle. Déjà en partant, à 7 ans, tu sais, je pense que ça peut construire un peu mon imaginaire pour la suite. Castaneda, c'est un sorcier qui... Il y a de la transformation en corbeau, puis en du transhumanisme. Fait que, tu sais, puis moi, j'adorais ça. J'écrivais pas encore, donc... Puis mon père, c'est un chasseur, donc j'ai été confrontée depuis très jeune à la chasse, à la mort des animaux, moi-même à tuer des animaux, aller à la pêche, à la chasse. Donc, je pense que tout ça a fait en sorte que ça a construit un peu mon imaginaire. C'est pas pour rien que j'aimais ça. J'ai l'impression que c'était... C'est comme... c'est comme une passion profonde, là, justement, ce questionnement de l'animalité. Puis effectivement, tu sais, j'ai jamais pensé à Kafka en écrivant ou à Marie Darrieussecq. J'ai la difficulté.
Darrieussecq.
Mais il est clair qu'on a certaines inspirations communes d'aller creuser l'animalité puis la différence entre l'humain, les comportements animaux, les comportements humains, pour justement essayer de faire le pont entre les deux puis éclairer certaines facettes de nous, peut-être qu'on aime moins ou qu'on veut travailler. Donc, je pense que c'est un peu comme ça que je me suis construite, en fait. Puis, tu sais, quand j'analysais après... On m'a dit, une autre métamorphose en bois de fer. J'ai dit, oui, mais moi, la métamorphose, je l'utilise depuis mes débuts. Là. Ma première nouvelle que j'ai écrite, là, c'était un garçon qui se transformait en oie pour rejoindre son père. Donc, j'aime toujours mélanger les genres, les natures aussi, et les styles et la manière d'écrire. Donc, pour moi, il n'y a rien de vraiment... séparé dans mon écriture puis dans mon monde. Tout se touche, en fait. Fait que c'est pour ça que ça arrive. Peut-être que Bois de fer est arrivé comme ça. Donc, c'est pas vraiment... C'est un peu de la poésie, c'est un peu un récit poétique, mais il y a une très grande narration. Donc, j'aime fusionner tous ces styles, tous ces genres-là, puis tous les univers, en fait, pour faire... En fait, c'est le mien qui est comme ça. Il n'y a aucune cloison, je pense.
D'autant plus qu'il y a certains commentaires qui ont pu dire « Ah, une autre métamorphose, une idée d'accumulation », alors qu'on se rend compte, quand on lit les deux textes, que la métamorphose ne s'articule pas de la même manière, ce n'est pas les mêmes thématiques qui sont convoquées, il y a une complexité qui est tout autre que celle qu'on retrouve dans le livre d'Amérique. Et ça m'amène à vous demander, on va parler tout à l'heure de l'hybridité, plus en détail, nature, humanité. J'ai une question à vous poser, Mme Gagné, par rapport justement à votre parcours. On parlait de votre processus d'écriture tout à l'heure et tout ça. Je voulais vous demander, quelle place occupe la dimension autofictionnelle dans vos œuvres? On prend par exemple, dans le livre d'Amérique, on a le personnage de Diane. On a dans le Bois de fer, disons, une incarnation ambiguë, hybride, entre une femme et un arbre, une figure un peu kaléidoscopique, un peu, justement, mystérieuse. Donc, je me demandais, quelle part de vous est transposée dans vos textes si on admet qu'on puisse calculer un tel effet, là? Si on admet qu'on puisse calculer un tel... justement, si on puisse quantifier ou justement calculer le degré de soi qu'on met dans un texte, voilà.
Mais je pense qu'il y a toujours un degré de soi dans toute œuvre, parce que en tant qu'auteur, on veut aborder un sujet, on veut ouvrir une discussion. Donc, en partant de ça, moi, c'est clair qu'il y a une partie de moi à l'intérieur de chacun de mes textes. Il y a une partie de moi poussée à l'extrême aussi. Tu sais, Diane, c'est pas moi. Ce serait moi si, justement, j'avais pas cette réflexion-là intérieure de changer pour devenir une personne aussi... qui repousse ses limites autant. Tu sais, Diane, je vais vraiment jusqu'à la modifier génétiquement. Qui voudrait ça? Mais c'est drôle parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit « J'aimerais donc bien ça, moi aussi, être modifiée génétiquement pour avoir plus d'heures dans ma journée. » Principalement des mamans qui, à peu près, vivent le même quotidien que moi, maman-papa. Là, mais j'ai eu beaucoup de discussions avec des femmes qui trouvaient ça, qui trouvent difficile de justement d'allier tous les sujets, toutes les sphères de la vie ensemble. Donc, Diane, c'est une partie de moi, mais à l'extrême. Dans Bois de fer, il y a aussi une partie de moi. T'sais. Quand j'ai commencé à écrire Bois de fer, j'étais dans une position plus horizontale que verticale. Disons que j'ai eu besoin de me reposer pendant quelques semaines. Puis je contemplais beaucoup, j'observais mes arbres, j'analysais, puis j'avais à peu près l'énergie de googler des informations sur les arbres, puis je regardais mon arbre, puis c'est comme ça qu'est né un peu Bois de fer là, dans ma tête. Donc, c'était ce questionnement, puis je me rendais compte en regardant tout l'écosystème de mon arbre, tous les oiseaux qui venaient, les gens qui venaient manger leur sandwich, parce que moi, j'ai installé plein de balançoires en dessous de mon arbre, puis les voisins, même s'ils savent pas que je les vois, mais certains voisins viennent manger leur sandwich lors du midi en pensant que il n'y a personne, mais moi, je suis en télétravail, fait que je les vois puis je les laisse faire. Je trouve ça intéressant de les observer. Il y a aussi des gens qui viennent s'abrier à cause de la pluie. Donc, je voyais tout cet écosystème-là. Puis moi, je me voyais étendue dans mon lit, avec aucune aucune connexion avec personne. J'avais pas cette énergie-là. Puis j'ai vraiment, j'ai voulu ouvrir la discussion sur cet aspect de prendre soin de soi comme prendre soin du vivant. Pourtant, moi, je prenais soin de mon vivant. Là. Moi, je prenais soin de mon arbre, je prenais soin de mes jardins. J'ai un réseau qui arrose mes jardins avec un Bluetooth sur mon téléphone. Je suis vraiment, je suis loin dans mon entretien du vivant. Mais moi, je m'entretenais absolument pas. T'sais, j'avais l'impression que je savais même pas par où commencer pour prendre soin de moi. Puis c'est un peu ça, dans le fond, que c'est en regardant le vivant puis tout cet écosystème que moi, j'avais perdu. Là, je communiquais peu ou pas. J'avais de la difficulté à savoir quelles opinions... Il y a des moments où je ne savais même pas si j'avais une opinion sur quelque chose. Je me posais la question, puis c'était vide. Je me disais, mais c'est quoi ce vide-là? Quelle déconnexion j'ai subie à travers le temps pour m'amener là? T'sais, est-ce que c'est la pandémie, les 2 ans à la maison? Je pense que ça s'était amorcé beaucoup de temps avant ça. Donc, c'était toutes ces réflexions-là qui... Fait que oui, il y a une partie de soi qui est à l'origine de chacun des livres. Puis dans mon cas, c'est vraiment la discussion que je veux ouvrir, que je veux entamer avec les gens.
Je pense que ça fait une belle transition pour préparer la discussion de la deuxième demi-heure vers la présentation de ces œuvres-là. Parce qu'on commence à en parler, c'est pas nécessairement tous nos auditeurs qui ont déjà lu « Lièvre d'Amérique » ou « Bois de fer ». Donc, je pense que ça tombe bien, la meilleure personne pour présenter une œuvre, c'est généralement l'autrice. Commençons donc par ce roman qui a explosé en termes de popularité à travers le monde, « Lièvre d'Amérique ». Qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? À qui ça parle? Je vous laisse la parole.
Donc, le Lièvre d'Amérique, c'est le personnage principal, elle s'appelle Diane. Donc, c'est une workaholique qui décide de subir une opération génétique pour devenir plus performante. Et ça vire pas si bien que ça. Ça aurait peut-être pu bien virer, mais chez elle, il y a quelque chose qui se passe, une transformation qui s'amorce, qui lui fait prendre conscience de bien des choses sur sa vie, justement, que le workaholisme qui l'a effacé, bien, c'est arrivé pour une raison. Donc, c'est intercalé par des retours dans le passé où on suit Diane, qui, dans son adolescence, elle habite sur une île, qui est l'île aux grues. Donc, la part de réel dans cette histoire. Je suis née à l'île aux grues, moi aussi. Donc, j'ai pas vécu aussi longtemps que Diane dans mon livre. Là, moi, j'ai quitté quand même très tôt. Je pense vers 5-6 ans, on a quitté l'île. J'y suis revenue quand même régulièrement parce que mon père y travaillait encore. Mais tout de même. Donc, fait que c'est ça. C'est l'histoire, dans le fond, les différentes parties qui se répondent l'une l'autre. Puis on creuse davantage pour comprendre comment Diane en est arrivée là. Puis j'ai vraiment décidé de faire quatre sections qui se répètent dans le livre. Il y a des petites parties de documentaires animaliers où on en apprend plus sur le comportement du lièvre, parce que la modification génétique de Diane, c'est ça, c'est qu'elle se transforme tranquillement en lièvre pour dormir moins, parce que le lièvre est un animal qui dort très peu, qui est à l'affût, puis qui est très rapide. Donc, c'est un peu l'idée d'avoir de ses attributs à lui pour pouvoir s'améliorer.
Si j'avais, évidemment, je sais que c'est très restrictif, mais pour le bien de la chose, pour les gens qui ne l'ont pas lu, si j'avais à coller une étiquette là, pour notre gérant de librairie, là, doit coller une étiquette, le genre de lièvre d'Amérique. Pour simplifier un peu, est-ce qu'on parle d'un livre plus dramatique, d'un livre avec du suspense? C'est peut-être simplifié là, comme question, vous comprenez, mais quel genre on peut étiquetter à ce livre-là? Oh!
Excusez,
j'ai dit pour épauler notre gérant de librairie. Mais c'est vraiment vous, je pense, qui aurez la meilleure réponse. Comment vous décririez le genre de ce livre-là?
Ben, moi, je pourrais dire... Le lièvre d'Amérique, mon Dieu, bien, on l'a décrit comme une fable animalière néolibérale. Okay. Donc, on a donné cette étiquette-là qui, je trouvais, résumait bien dans l'ensemble le lièvre. Moi, je dirais que c'est un livre qui a plusieurs genres littéraires à l'intérieur, donc qui peut plaire peut-être aux personnes un petit peu plus intellectuelles. Donc, il y a des documentaires animaliers, il y a des parties beaucoup plus poétiques, il y a des parties qui sont très effrénées, donc dans la rythmique. Donc, j'ai travaillé le style dans chacune des parties qui reviennent pour justement essayer de répondre à différents besoins, par exemple, chez le lecteur. Donc, c'est un peu ça, okay. Je pense que...
Ça répond bien, oui, rapidement.
En fait, Mireille, je rebondis sur l'étiquette, disons, fable néolibérale, parce que ça, ou le genre du conte, parce que ça... C'est, en fait, je vais prendre un petit détour avant... C'est pas vraiment une question, là. J'entendais l'écrivain Laurent Mauvignier, que j'adore, qui, lors d'un de ses passages à l'émission La Grande Librairie, s'est fait poser la question « Que peut la littérature face au monde dans lequel nous vivons? » Et sa réponse, en fait, portait uniquement autour du conte. Et il a fait une référence au fait que le conte, qui s'adresse principalement aux enfants, en réalité, là, on parle des contes, là, des contes de Grimm, par exemple, donc bien avant le cinéma Disney, là, qui va nous édulcorer tout le paquet, ce sont des contes très sombres. Et ce qui peut, ça peut surprendre aujourd'hui de voir à quel point on décrit dans ces contes-là un monde dangereux, un monde cruel. Et la plus belle partie de sa réponse, finalement, était de dire qu'il faut finalement faire une sorte d'éducation aux enfants en les préparant à affronter cette cruauté-là, ce monde dangereux-là. Mais que finalement, le ressort de la fiction, c'est aussi de faire aimer ce monde dangereux, ce monde malgré qu'il soit dangereux. Et considérant le fait que tu sembles aussi avoir une grande influence là, face au conte, le fait d'avoir choisi aussi ce style-là pour décrire aussi dans le lièvre d'Amérique les dérives peut-être c'est-à-dire d'un employé qui va finalement faire face à cette cruauté-là, le regard sur son corps, le regard de la Diane qui veut toujours en faire plus, mais pour qui finalement? Donc, j'étais juste curieux de t'entendre. Est-ce que pour toi, les contes comme les contes de Grimm, est-ce que ça a une importance capitale ou c'est juste un add-on, finalement?
Écoute, c'est drôle que tu en parles parce que j'ai lu l'entièreté des contes de Grimm quand j'étais jeune. Je me rappelle dans mon lit, là, les briques quasiment à un pied d'épais. Là. Je les ai tous lus, puis je sais que ça a une influence particulièrement dans tout ce que j'écris parce que j'aime l'idée d'enseigner quelque chose à travers ou d'ouvrir une porte, en fait, au lecteur pour que le lecteur puisse lui-même amorcer sa démarche intérieure s'il le veut. Puis le conte, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut amener des symboles qui peuvent s'interpréter de différentes façons. Puis, tu sais, quand j'ai écrit Le Lièvre, là, on parle d'une légende. Je parlais de la légende à la fin, là, la légende de Nana Bozo, là, dans Le Lièvre d'Amérique, parce que c'est ça, dans le fond, dans le livre, à la fin, j'éclaire le texte en ajoutant une légende algonquine. Puis, dans le fond, quand j'écris, tu sais, j'utilise des symboles. Je travaille beaucoup avec le dictionnaire de symboles. Puis, j'essaie vraiment de... Souvent, les symboles vont m'arriver... vraiment directement de l'inconscient. Puis c'est quand je retravaille les différents symboles avec le texte, avec le vocabulaire à la fin, que je me rends compte que j'avais mis des symboles que je m'en étais pas rendu compte, puis que là, je me dis « Ah oui, ça va être bon! » C'est comme la lune avait une place importante dans le livre. Puis sans vraiment le savoir, je l'avais inséré à quelques endroits. Les astres avaient une grande importance dans le livre d'Amérique. Puis après coup, je me disais, ah, c'est vrai, la lune, les marées, j'habite sur une île. Donc, tu sais, c'est comme si, après ça, je travaille. Puis quand j'ai découvert la légende algonquine à la fin, par hasard, en faisant des recherches sur Internet, sur tout autre sujet, bien, la lune en faisait partie. Donc, il y a toute cette analyse-là, puis cet intérêt que j'ai envers tous les symboles qu'on retrouve dans les contes de Grimm. Un symbole peut être analysé de différentes manières, mais il y a une charge en dessous de ça qu'on peut utiliser. Puis je pense que dans le conte, c'est ce qui est intéressant. Puis c'est un peu ce que j'utilise dans beaucoup de mes histoires. Donc, il va y avoir vraiment beaucoup de symboles que je vais attacher. Puis c'est comme si ils arrivent dans le texte. Puis là, je fais le focus à la fin du texte pour essayer d'équilibrer tout ça. Un peu comme dans les contes de Grimm, où il y a plein de symboles, des valeurs qui sont associées à un type d'animal. Donc, je vais vraiment travailler ça. Le lièvre, c'est un peu la même chose. Donc, quand je me suis dit en quoi je pourrais modifier génétiquement mon personnage, bien, j'ai fait des recherches sur les animaux. Ma première recherche sur Google, c'était quels sont les animaux qui dorment le moins sur Terre. Puis je me rappelle avoir trouvé le lièvre et la girafe. Oh. Ça me fait vraiment rire de dire si j'avais changé. En tout
cas, si j'avais fait une autre histoire.
Quelle drôle d'histoire aurait pu survenir avec la girafe. Mais j'ai regardé aussi plein de de gène que les animaux ont. Il existe un animal qui n'a pas le gène de la douleur. Puis je me dis, ah, ça pourrait être intéressant de faire un texte là-dessus. Tu sais, si on enlève la douleur, parce que dans Bois de fer, on parle beaucoup de douleur chronique, là. Donc, j'avais cette idée-là aussi. Mais, tu sais, à un moment donné, c'était évident que c'était le lièvre que je voulais choisir, parce que notamment à l'île aux Grues, il n'y a plus de lièvre. Il y a eu des lièvres dans les années 70, puis ils ont tellement été chassés ou il y a eu des maladies. La population a été complètement décimée. Donc, je trouve ça intéressant encore. Tu sais, c'est un symbole, le lièvre, avec un comportement qu'on lui attribue à l'humain. Puis, il y a plein de qualificatifs qu'on peut creuser, puis on peut attacher. Tu sais, quand on commence à regarder, là, il existe une légende avec la lune, le lièvre. C'est juste fabuleux, toutes les ficelles qui s'attachent, qu'on commence à regarder plus dans le symbole. Fait que oui, les contes de Grimm, c'était vraiment très...
Le temps file, mais avant d'aller en pause publicitaire et musicale, je veux qu'on termine en présentant l'autre œuvre dont on va grandement faire question lors de la deuxième moitié, plus en discussion, soit Bois de fer, dont on a déjà mentionné le titre à plusieurs reprises. Si vous pouviez rapidement nous présenter cette œuvre.
Mais Bois de fer, je le décris comme un drôle d'insecte. Puis j'utilise le mot insecte parce que il y a plusieurs pattes. Il va vite dans certains endroits. Des fois, il fait peur parce qu'il apparaît quand il surgit de nulle part puis on s'y attendait pas. Donc c'est un drôle d'insecte entre le récit poétique, la poésie, une nouvelle. Donc il y a une très grande narrativité là-dedans. En poésie, j'ai tendance quand même à souvent laisser une grande de la narration. C'est important pour moi de raconter, de laisser un message puis de raconter une histoire. Donc c'est ça, c'est plein de petits fragments de textes qui sont numérotés. Pas de pagination, c'est vraiment comme un journal. En fait, c'est des petites pensées, comme un insecte qui arrive sur un tronc d'arbre puis qui tente de nous faire réfléchir justement à comment prendre soin du vivant, comment prendre soin de soi. C'est une métamorphose. En fait, c'est une femme qui est un tilleul qui parle. Fait que voilà. Est-ce que c'est correct? C'est bien résumé.
C'est parfait. On ne peut pas demander mieux que l'autrice elle-même qui présente son œuvre. Donc, on va prendre une première pause dans cette table ronde littéraire en collaboration avec Coop Zone. Au retour, on discute un peu plus des thèmes abordés dans l'œuvre de Mireille Gagné, ainsi que des impressions que ça a laissées chez certains de ses lecteurs, y compris donc William Pépin, vous l'aurez compris, et Michel Germain. Restez des nôtres!
Depuis 25 ans, nous, on y passe à autre chose.
Ah yeah, yeah, ah yeah, yeah.
Chiz 94.3, la radio que tu mérites depuis 1997.
Pour tout savoir sur la vie artistique locale, Chérie J'arrive, c'est l'émission culturelle par excellence. Tous les jours de semaine, de 16h à 17h30, moi-même, Andréane Desmeul et mon équipe de chroniqueureuses, on jase de musique, théâtre, littérature et autres niaiseries. Promis, on te parlera pas de météo et t'entendras toutes les tournes de l'heure. Chérie, j'arrive, c'est tous les jours de semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Schiste 94.3.
Vous me connaissez sur les ondes de Schiste pour mon esprit d'analyse. Un commentateur d'actualité politique.
Ça reste que la possibilité qu'il soit minoritaire sous gouvernement reste très, très probable, en fait.
Mais là, Félix Bouffard, le journaliste, est pas mal écœuré. C'est pourquoi je reviens cette année avec une autre formule. Une formule qui met en valeur des chroniqueurs de tout horizon.
Hey, c'est quand tu commences à parler de moi?
Et je serai accompagné cette fois de Virginie, que j'ai été capable de sortir de son lab. C'est les scientifiques, faut pas trop leur en demander.
Regarde Science Vacances qui parle, toi. En tout cas, les lundis matins de 9 à 10, il y en aura pas de facile.
Il y en aura pas de facile à Chiz 94.3. We'll be right back.
déesse Isis, de l'Égypte antique, la mère créatrice d'amour romantique. J'offre ce sacrifice, ce poème, ce cantique, pour que l'apocalypse, en cette nuit d'éclipse, entre nous finisse, comme les astres s'unissent.
Mon Dieu, que le temps file. Mon Dieu, que le temps file. Félix-Antoine Audet, toujours à l'animation modération de cette table ronde littéraire en collaboration avec Co-op Zone. Et je vous rappelle, bien évidemment, nos chers invités. Michel Germain, gérant de la librairie chez Co-op Zone. On a aussi William Pépin, journaliste multimédia chez Impact Campus, le journal étudiant, ainsi qu'un étudiant au bac en littérature. Et notre invitée d'honneur, bien évidemment, Mireille Gagné, autrice du roman, notamment Le Lièvre d'Amérique, et du tout récent recueil de poésie Bois de fer. Et on a beaucoup discuté de la carrière, du parcours, des inspirations de Mireille. Je veux peut-être un peu plus ouvrir la discussion sur le monde littéraire de Mireille, les inspirations qui peuvent en venir dans la carrière et le métier d'autrice. Je te laisse donc la parole immédiatement, Michel.
Alors Mireille, en fait, j'ai préparé quelque chose, puis j'ai essayé de te surprendre, mais je ne sais pas si ça va fonctionner. Bois de fer, en fait, t'as expliqué dans ton texte que bois de fer, en fait, c'est le nom qu'on donne à un certain type d'arbre dont la dureté est vraiment remarquable. Mais on retrace aussi le bois de fer dans un vieux texte, dans l'Edda. L'Edda, en fait, c'est des récits de mythologie nordique. Donc, pour les amateurs de Marvel, là, de Thor, là, il faut vraiment que vous reveniez à la base, lisez ce texte. Et en fait, c'est qu'il y a une partie de ces récits-là qui fait référence à une forêt de fer. Mais selon les traductions, on va utiliser aussi le terme « les bois de fer ». Et dans cette forêt, c'est, le texte raconte qu'il y a une sorcière qui vit et qui met au monde des fils sous forme de loups.
Oh non, hey, non, non, mais là, il faut vraiment que je lise ça.
Alors voilà, c'était
juste...
je voulais te surprendre, c'est, là, je suis bien content de voir que ça marche. Parce que en fait, le texte, juste un peu plus loin, raconte qu'il y a un des fils, entre autres, qui fait quelque chose. Là, je ne m'embarque pas dans le détail, mais il y a quelque chose qui me faisait penser à toi aussi, c'est que... une omniprésence, en fait, il déchaîne les éléments, dont le vent. Et là, je me rappelais du fait que toi-même, tu as insisté là-dessus. On peut relire ton œuvre en parlant beaucoup des éléments. J'ai relu le livre d'Amérique en gardant ça en tête et j'ai trouvé ça extraordinaire. Est-ce que le fait que tu sois né à l'île aux grues, ça a un impact majeur sur ça ou... Je serais curieux de t'entendre.
Mais je pense que le fait d'être né sur une île, avec les marées, avec les tempêtes, le fait qu'on fait partie de l'écosystème, on n'est pas au-dessus de l'écosystème dans une île. Si, je vous donne un exemple, l'été passé, j'ai voulu aller à l'île aux grues avec ma famille. On est arrivé, le bateau passait pas parce qu'il y avait trop de vent, trop de vagues. Donc, on a dû y aller en avion. Ça a tout changé notre périple. Mais c'était quand même super plaisant. Mais c'est ça, c'est d'être confronté à la force de cette nature-là, autant dans sa puissance que dans sa beauté. J'ai l'impression que ça a vraiment éclairé tout mon processus d'écriture, puis comment je me suis construite, puis cette beauté-là, cette puissance-là. Tu sais, les marées, quand la marée est basse, on ne peut pas traverser de l'autre côté. Quand la marée est trop forte, on ne peut pas traverser non plus. Donc, on est vraiment en attente de cette nature qui se calme-là. La lune aussi, le vent, la pluie, la neige. Tu sais, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'ai des souvenirs un peu... effrayée de tout ça, mais au printemps, mon père qui nous amenait sur les glaces en skido, puis que les glaces cassaient en arrière de nous au poids de la motoneige. Tu sais, c'est toute cette présence-là de la nature, puis les oies aussi qui arrivent, puis qui sont tellement présentes sur les battures, on ne fait qu'entendre un bruissement, un foisonnement d'oies puis de cris dans la nuit, le jour, peu importe. Là. Donc, c'est vraiment cette présence très forte de la nature qui transperce tous mes écrits, en fait. Tous les livres que j'ai écrits parlent de ces éléments-là puis de leur puissance pour justement nous remettre dans l'équation qu'on en fait partie, qu'on n'est pas en contrôle de tout ça. Puis, tu sais, c'est peut-être l'aspect plus environnementaliste que je veux aborder dans mes différents textes, qu'on est en voie d'extinction. T'sais, j'en ai parlé dans Le Lièvre, j'en parle aussi dans Le Bois de fer, de prendre en considération la nature, de se remettre dans l'équation pour justement protéger cette beauté qu'on est en train de détruire à petit feu. T'sais.
Mais justement, vous parlez, Mme Gagné, de la force de la nature, de la puissance de la nature. On a plusieurs occurrences, par exemple, dans les textes au vent du Nordais, qui est un peu... J'oserais pas dire l'antagoniste des deux textes, mais pas loin. Par exemple, dans Bois de fer, il y a cette puissance-là qui est traduite par une vulnérabilité. Je vais parler du foisonnement thématique qui transparaît de Bois de fer. Il y a cette idée de solitude, de mort intérieure qui finit plus par finir. Il y a quelque chose d'une maladie longue, lente, inéluctable, qui se termine par finalement une mort qui est anticipée, qui est attendue, qui est redoutée. Donc, moi, je me demandais tout à l'heure, on parlait avec Félix-Antoine de comment qualifier vos textes de thriller, de roman policier, etc. Bon, on n'est pas là du tout, mais c'est ce qui fait la force de vos textes, je trouve, c'est cette idée qu'on peut y rentrer puis on peut les découvrir par plusieurs portes différentes. Donc, par la thématique qui nous plaît le plus, qui nous touche le plus. On parlait tantôt du surmenage, par exemple. Ce que je voulais vous demander par rapport à ça, par rapport à Bois de fer plus spécifiquement, c'est... sans vouloir réduire la complexité du récit, c'est je voulais vous demander quelles thématiques qui ressortent le plus dans Bois de fer. Est-ce qu'on on va parler davantage de la solitude, on va parler davantage de l'anxiété, etc. Quelles combinaisons thématiques que vous jugez les plus pertinentes à souligner dans ce texte plus spécifiquement?
Quand j'ai commencé le travail éditorial avec mon éditeur, je me rappelle avoir eu une discussion avec Paul Kazak sur la communication. C'est drôle parce que je travaille en communication, mais toute l'absence de communication qui se trouvait dans ce livre-là, puis que c'était vraiment le nœud du texte. Dans Bois de fer, c'était le workaholic. Je voulais travailler sur l'aspect... je voulais ouvrir les yeux aux gens sur le workaholic. Je voulais qu'on entame la discussion là-dessus. Mais c'est ça. Puis j'ai écrit le livre, mais je trouvais que c'était la pointe de l'iceberg du problème. Donc, dans Bois de fer, je suis allée creuser beaucoup plus large que ça. Puis... le fondement du workaholisme, de tout ça, c'est de justement de la solitude, du burn-out, de l'épuisement, c'est vraiment cette absence de communication-là réelle. C'est comme si il y a une scission qui a été faite entre la personne et le monde. Puis c'est un peu ce que j'essaie de recoller. Donc, c'est vraiment de mieux communiquer avec le vivant autour et surtout avec soi-même.
Est-ce que c'est important pour vous de passer des messages sur notre société à travers vos écrits? Est-ce que c'est une nécessité dans tous vos écrits? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec Le Lièvre d'Amérique et Bois de fer, mais pas nécessairement partout? Comment ça s'installe dans votre style?
Je pense que je suis quelqu'un de très rationnel, elle. Étonnamment, je fais de la poésie, puis j'écris des affaires un peu flyées, mais je suis quelqu'un de très rationnel, puis j'ai comme vraiment besoin d'avoir quelque chose à dire, puis d'avoir un sujet de société à aborder dans un texte. Si j'en ai pas, c'est que je l'ai pas encore découvert. Puis c'est drôle, parce que dans mon prochain roman, tu sais, ça fait 2 ans que je l'écris, puis j'étais pas encore certaine de savoir c'était quoi le sujet, puis je l'ai découvert l'été passé, je me suis dit, ça va être ça, tu sais, ça va être la thématique que je veux aborder. Donc, il y a toujours un sujet qui émerge de l'écriture d'un livre, au début, dans le milieu ou vers la fin, puis tu sais, c'est important pour moi de... J'en parle souvent, là, mais tu sais, de discuter d'un sujet. Là.
Je serais un mauvais journaliste si je ne m'essayais pas. Là, vous dites que vous avez trouvé le sujet de votre prochain roman.
Ah non,
roman.
Ça, je le dis pas, par exemple.
Ah, un petit indice, un non. Petit... Non. Mais il fallait que j'essaie.
Bien essayé. J'ai aucune idée si c'est ça qui va rester à la fin. C'est le processus de création. T'sais, moi, je suis la faucheuse littéraire. Là, mon chum, il en revient jamais à chaque fois là, que... Ah tiens, je viens de supprimer 50 pages. Puis il dit, mais non, tu peux pas faire ça. Puis je suis comme... Ouais, ça allait plus bien dans le texte. Je suis passée à autre chose, puis je fais V2. Puis, tu sais, moi, je bouge beaucoup dans un texte, puis je supprime sans remords du tout. Fait que peut-être que dans 6 mois, je vais dire c'est absolument pas ça le sujet du texte.
C'est bon.
Mais moi, Mireille, je tiens quand même à dire que ce que j'ai beaucoup apprécié dans le dernier texte, c'est que tu, ou même dans Le Livre d'Amérique, c'est que tu laisses place au lecteur. Le lecteur va... Puis là, je rebondis sur ce que William a dit. Il y a tellement de thèmes... qu'on peut aborder l'œuvre à chaque lecture d'une façon différente. Et clairement, c'est un choix délibéré, là, parce que dans le... si je reviens au Bois de fer, en fait, le choix narratif que tu fais de fusionner la voix de la femme et celle de l'arbre, pour moi, c'était un coup de génie. Ça amène vraiment une liberté dans l'interprétation. Donc, moi, je sais que de mon côté, quand je lis le Bois de fer, quand l'arbre parle... C'est la première image que j'ai, c'est celle de la femme. Donc, personnellement, j'étais un peu surpris de voir les critiques qui parlaient autant d'éco-anxiété, parce que c'était pas nécessairement la lecture que moi j'en faisais. C'est pas une critique que je fais à cette interprétation-là, mais c'est qu'on comprend, en fond, que tu laisses la place. Et Le Lièvre d'Amérique, je pense que t'avoir déjà entendu parler du fait que tu recevais des commentaires de lecture de gens qui faisaient une lecture très littérale du texte et d'autres en faisaient une lecture complètement à l'opposé, donc plus une lecture métaphorique. Les gens voyaient plus la maladie mentale qu'une transformation réelle. Est-ce que tu partages cette idée-là de laisser de la place ou est-ce que c'est juste un effet de lecture?
Je pense que ça me vient vraiment de l'écriture de la nouvelle. Moi, j'ai vraiment commencé à écrire par la nouvelle. Donc, cette idée de laisser plus d'ouverture au lecteur. Il y a la poésie aussi. On laisse beaucoup de silence, beaucoup de blanc pour justement permettre au lecteur d'avoir sa propre interprétation, que ça résonne chez lui comme il le sent. Je pense que moi, quand j'écris un livre, je l'écris vraiment en ayant en tête la précision. Comme moi, dans ma tête, dans le lièvre, Là, je vais dire des punchs, là, c'est ça que je suis en train de me dire. C'est vraiment, il y a vraiment une transformation. T'sais, tout ce qui se passe, je l'écris comme si je le voyais dans ma tête, puis c'est vraiment comme ça que ça se passe. Puis il y a des médecins qui m'ont dit, notamment, je me rappelle, il y a deux médecins qui m'ont dit, ah, mais moi, je voyais ça vraiment pour la santé mentale. Puis je trouvais ça tellement intéressant, cette interprétation-là. Puis tu sais, je pense que c'est l'idée d'écrire peut-être les textes plus comme des nouvelles en laissant de la place. Puis je le retravaille par après, tu sais, je le sais. Puis j'ai déjà commencé comme ça avec la première nouvelle que j'avais écrite sur les oies vertes dans mon premier recueil de nouvelles. Donc, il y avait vraiment cette idée-là de laisser les deux possibilités dans une fin. Donc, j'aime travailler là-dessus. Fait que j'ai fait la même chose en lièvre, dans Bois de fer aussi. J'ai effacé la frontière entre la femme et l'arbre pour qu'il n'y ait qu'une seule entité. Mais les gens peuvent les séparer aussi. Puis je pense que c'est l'idée que le lecteur a sa place d'interprétation puis qu'il a sa propre intelligence derrière le texte. C'est ce que je trouve le plus intéressant dans l'écriture puis dans les échanges.
Je voulais aussi revenir, Mme Gagné, sur... désolé, je fais beaucoup d'allers-retours, mais sur la violence de la nature. Puis j'aimerais vous lire peut-être juste un petit extrait du fragment 82. Avez-vous remarqué... combien les arbres se ressemblent une fois dépouillés, les vents violents d'automne arrachent les profils. Est-ce que c'est une manière d'illustrer, d'une part, la violence de la nature envers elle-même et, d'autre part, une manière d'illustrer une individualité volée, brisée? Quelle est la place de cette individualité-là dans le texte Bois de fer, par exemple?
Je pense qu'elle est vraiment très présente. Toutes les relations, quand on parlait d'absence de communication, donc toutes les relations qui nous blessent, toutes les personnes qui passent dans notre entourage comme un coup de vent puis qui emportent quelque chose puis qui font qu'on devient plus personne, qu'on devient vide, qu'on devient des fantômes de nous-mêmes, je pense que c'est un peu ça. T'sais, la nature le fait dans toute sa violence. On le voit à l'automne, c'est la journée où toutes les feuilles de tous nos arbres s'en vont chez le voisin puis qui se mélangent entre elles. Bien, il y a aussi... le vent du Nordais peut être un humain qui passe à côté de toi puis qui emporte tout puis qui efface tout. Donc, tu sais, je pense que c'est tous ces niveaux de lecture-là. Puis, tu sais, dans le fond, quand j'écris le bois de fer, je voyais trois niveaux de lecture. Le premier, plus écologiste. Le second, très psychologique, en fait, comment prendre soin de soi, de ses émotions. Puis le troisième, plus philosophique, pour essayer de guérir ces blessures-là puis d'ajouter peut-être de l'espoir. Parce que c'est quand même, on ne se cachera pas, c'est un récit qui est quand même... avec beaucoup d'émotions. Là. On ressent beaucoup d'émotions. Moi, j'en ai ressenti beaucoup en l'écrivant. Ça m'a fait du bien, mais j'ai essayé de mettre de la lumière aussi à travers.
Puis moi-même, si je peux partager brièvement mon expérience de lecture, c'est un texte qui se dévoile, mais qui nous donne justement le choix quant au type de lecture qu'on va faire, une lecture plus terre-à-terre, plus allégorique, etc. Puis je me demandais, moi, je trouve que c'est profondément lié à l'idée du fragment, au sens que le fragment, ça sous-tend l'idée d'une cassure, de morceaux qu'on rassemble a posteriori. Est-ce que vous pensiez aux lecteurs et aux lectrices en écrivant ces textes fragmentés-là, en vous disant, bon, on peut le lire dans le désordre éventuellement, on peut se faire notre propre recette finalement? Est-ce qu'il y avait cette perspective-là en tête lors de l'écriture de Bois de fer?
Ce que j'ai essayé de faire particulièrement dans Bois de fer, c'est de lier chacun des poèmes les uns aux autres. On peut les lire... aléatoirement, il y a quand même toute une filiation qui se crée. Dans le fond, souvent, un poème va répondre à l'autre, qui va suivre l'autre. Puis j'essayais de créer cet effet de... on peut pas arrêter. Donc, il faut tourner la page puis continuer. Puis un peu comme quand on commence à faire une quête plus intérieure, plus spirituelle, on commence, puis il y a plein de choses qu'on découvre. Puis c'est comme si tout notre univers s'ouvrait, puis on voit tout le vide nous entourant. C'est un peu ça que j'essayais de créer. Puis j'ai vraiment travaillé les fragments pour que chacun se réponde, puis donne cet effet de rapidité dans le texte. Puis je les ai fragmentés. Au départ, ils étaient plus longs que ça, puis je les ai vraiment coupés pour donner cet effet-là. Donc c'est vraiment tout le travail de la forme. J'adore travailler la forme d'un texte. Donc ça a été vraiment important pour moi, ce moment-là de créer les fragments, oui.
D'autant plus que c'est intéressant parce que vous disiez tout à l'heure que votre processus d'écriture est alimenté ou naît d'une certaine manière, du chaos. Donc, il y a cette idée-là qu'on retrouve dans la forme qui est super intéressante. Mais effectivement, la longueur des fragments est relativement stable. Par contre, on retrouve à certains passages des fragments qui font un mot ou deux. Puis souvent, on se rend compte que c'est des mots qui sont rattachés justement au réseau lexical de, des arbres, de la nature, etc. Est-ce que c'est une volonté de didactique, si j'ose dire, de présenter une dimension de la nature qu'on ne connaît pas, que le grand public connaît plus ou moins? Quelle était la volonté de faire des fragments vraiment qui font une ligne ou deux?
J'essaie toujours, moi, de donner de l'information par rapport à un sujet. Tu sais, comme je vous disais, moi, j'étais couchée et j'apprenais sur les arbres. J'ai voulu partager ça pour justement que les gens en apprennent davantage, prennent soin davantage des arbres en banlieue qu'on voit qui sont coupés par la ville, coupés. Ils font des pommes, on va les couper. C'est les arbres qui dérangent, la végétation qui dérange. On, comme certains humains qu'on tasse parce qu'ils dérangent. Donc, c'est un peu ça que je voulais aborder. Puis j'aime bien créer un effet de coup de hache. C'est un peu l'effet que j'avais en tête en mettant des petites phrases, des petits mots ensemble, comme vraiment un effet de bois. Voilà.
Je pourrais vous écouter parler pendant encore 2 heures de temps. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Je tiens vraiment à remercier nos invités autour de la table, à commencer bien évidemment par notre autrice invitée, Mireille Gagné, qui est avec nous, Michel Germain, gérant de la coop, la zone librairie de la coop zone, et du côté de William Pépin, le représentant pour Impact Campus, pour cette édition
Merci
de la table
beaucoup.
Littéraire.
Merci, Félix.
Merci à vous.
Merci.
Ça a été un plaisir, cette session d'automne, d'animer la table littéraire Coop Zone. On se retrouve, je n'en doute aucunement, à la session d'hiver, avec un tout autre ordre d'esprit. Je pense qu'on va aborder les bandes dessinées, si je ne me trompe pas, Michel. Alors, rapidement, j'imagine qu'on peut trouver toutes les œuvres de Mireille Gagné, surtout Le Lièvre d'Amérique et Bois de fer dont on vient de parler, dans la librairie Coop Zone.
Absolument, je vous invite vraiment à y porter attention. Ce sont 2 œuvres extraordinaires.
Merci encore, merci énormément de votre temps. Restez à l'écoute dans quelques minutes. Moi, je ne pars pas, c'est Les Affamés, votre émission d'information sur les ondes de Chiz 94.3.
OK, attention. 1, 2, 3, Chiz!
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
C'est capté par son receveur, touché, rouge et or.
La Coupe Vanier, c'est sur les ondes de Chiz 94.3.
Le champion de la Coupe Mitchell, votre rouge et or de l'Université Laval, se frottera au gagnant de la Coupe UTEC, les Huskies de la Saskatchewan, pour l'obtention du titre de champion canadien.
Ne manquez pas l'avant-match de 12h30 en compagnie de Pascal Loubier et Victor Marchand. Rouge et or, Huskies. Ce samedi 13h sur les ondes de Chiz 94.3, la radio officielle du Rouge et Or.
Allô tout le monde, c'est Mathieu Dufour, fier porte-parole de l'Opération Nez Rouge. C'était impossible de faire une pub radio sans que je fasse une chanson, fait que ça part! Mario est ben gorlo, José est sur le party, Robert y voit plus clair, y'a personne qui peut chauffer. Le Carole à bénévole qui débarque en fin de soirée pour les raccompagner en toute sécurité. 1-8-6-6, Desjardins! Faites-moi confiance, la gang. Venez l'essayer. Opération Nez Rouge, là, vous pourrez plus vous en passer. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station.
On est maniaque de cheese depuis 25 ans.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chizziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.